Salut les marques, salut les smarts, bienvenue dans Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Je suis Ringside et ici, comme toutes les semaines, on va vous débriefer Monday Night Raw, l'émission phare de la WWE. Pour m'accompagner pour cette édition spéciale, puisque c'est le Go Home Show avant WrestleMania, il est de retour, plus beau que jamais, l'amiral Armbar. Amiral, comment ça va ?
Salut, bah écoute, ça va très bien, ravi de sortir un peu de ma retraite et de revenir à cette semaine de WrestleMania, parce que ça y est, on y est enfin, après des mois, des semaines qu'on nous saoule, c'est la route de WrestleMania, ça y est, on le voit au bout là de la route, dernière semaine avant WrestleMania, donc dernier Raw. Bah voilà, on est là pour en discuter pendant qu'on a les copains Hank, RM et Giscal qui sont en train de s'envoler eux pour la Nouvelle-Orléans, voire même ils sont arrivés, mais si vous avez un peu suivi, ils vont faire plein de trucs toute cette semaine. Donc voilà, une semaine très chargée aussi pour Catch Up.
C'est ça, exactement. On a mis tout le monde dans l'avion, dont un dans la soute, et ouais. Ils arriveront d'ici pas longtemps, et ils vont faire ces petits debriefs journaliers sur cette belle semaine de WrestleMania qui s'annonce. Après toute cette longue route qu'on a difficilement parcouru, des bons moments, des mauvais moments, et cette semaine c'est la fin, la conclusion. On est à Atlanta pour ce Go Home Show de Monday Night Raw, avec toujours les trois, on peut plus dire de gros mots sur YouTube, alors les trois commentateurs.
Voilà.
Ça. Et le meilleur de tous, Jonathan Coachman, il est là dans le ring. Il va présenter l'interview face-off entre la team Levesque, Triple H et Stephanie McMahon, et la team Angle et Rousey, la team olympique. Puisque à WrestleMania, je vous le rappelle, on a ce match qui oppose Triple H et Stephanie McMahon à Kurt Angle et Ronda Rousey pour le premier match de Ronda Rousey à la WWE. Alors on se moque un petit peu des chants Ronda Rousey du côté de Stephanie McMahon, qui est magnifique, elle n'a jamais été aussi belle. Triple H met la responsabilité de toute cette histoire là, qui gâche un peu l'arrivée de Ronda Rousey, qui est un peu la plus grosse signature de l'histoire de la WWE. Il met toute la faute sur Kurt Angle. Où est l'intelligence que tu avais dans ton mantra une époque, intégrité, intelligence et je sais plus quoi. Où est cette intelligence?
Intensité
également. Donc il demande des explications, mais c'est surtout Ronda Rousey qui veut des explications. C'est elle qui pose les questions finalement. C'est elle qui veut des réponses. Alors Stephanie McMahon met le holà. Elle interpelle le coachman qui est censé diriger l'interview en lui disant ne t'inquiète pas. Elle connaît pas encore les règles de la WWE, Ronda, mais on va la reformater. On va revenir à zéro avec elle. On va en faire une star de la WWE. Elle interpelle directement Ronda et lui demande qui es-tu pour me poser des questions, pour qui tu te prends. Tout simplement, ça vole pas bien haut. Kurt Angle reprend la main. Il explique c'est Ronda freaking Rousey que t'as en face de toi. Championne olympique de judo, championne de l'UFC. Des plus grosses stars du business. Et puis elle te fera taper à WrestleMania. You tap out, comme on dit. Triple H là, c'est lui qui reprend la main. Il explique que la carrière de Ronda Rousey, ça veut rien dire, la WWE. Ici, c'est Triple H et Steph qui font les règles. Et Stephanie explique que grâce à leur victoire à WrestleMania, ils imposeront enfin le respect pour l'autorité à tout le vestiaire. Puisqu'ils vont réussir à calmer un peu cette championne de pacotille là. Ronda demande alors à Stéphanie si elle est gauchère ou droitière, tout simplement parce qu'elle veut s'assurer que Stéphanie puisse continuer à lui signer ses chèques une fois qu'elle lui aura arraché le bras. Elle a du mal à finir sa phrase, elle est toujours pas très au point, la belle Ronda, quand il s'agit de parler. Et ensuite on décide de faire une photo comme pour tous les grands matchs, mais une photo professionnelle.
Ouais.
Ça ne s'est jamais fait, mais.
Non, voilà.
Ça va
et puis,
se faire pour ce soir.
Comme dit Coachman, c'est pas comme à la boxe, à l'UFC. À la WWE, on sait faire les signatures de contrat ou les photos de façon professionnelle, calme. Voilà.
Ça va pas se terminer avec quelqu'un qui traverse une table.
Non,
c'est pas le genre de la maison.
Alors là, c'est mal les connaître.
Voilà, donc on a fait amener le photographe, on a un face à face de chaque côté, Triple H face à Kurt Angle, Ronda Rousey face à la combattante Stephanie McMahon. Et puis alors, bah, ça dégénère. Kurt Angle se prend un méchant coup de micro dans le dos par Triple H. Ronda Rousey attrape Triple H à la gorge. Mais Stephanie McMahon se glisse derrière elle, l'attrape et lui fait traverser une table grâce à un fameux une souplesse arrière joliment exécutée. Joliment avec des guillemets. Hein. Et donc voilà, bah, on se retrouve avec un Kurt Angle à l'extérieur du ring sonné, une Ronda Rousey laminée comme une crêpe, aplatie comme une crêpe à travers la table. Et
pancake, hein.
Voilà, la famille McMahon triomphant. Voilà un segment original, une signature. Alors il n'y a pas une signature de contrat, mais on était dans une espèce d'interview croisée, comme on en voit vraiment que pour les gros événements. Qu'est-ce que ça t'inspire tout ça, mon bon amiral?
Voilà, effectivement, tu l'as dit, c'est assez novateur dans la forme. Il s'inspire encore, il surfe sur la vague de l'aura de sportivité qu'apporte Ronda Rousey, qui en plus capitalisé par le retour de Coachman dans leur équipe de commentateurs. Donc ça faisait un setting sur le ring qui était, je crois qu'on n'a jamais vu, hein, ou du moins j'ai pas mémoire en ça. Donc ouais, une sorte de conférence de presse, questions-réponses. Voilà, c'était mettre effectivement un peu le petit ruban pour ficeler ce match de gala finalement, hein, qui est un match de début, mais on a quand même effectivement le retour dans le ring de Kurt Angle, même si on l'avait vu à TLC avec le Shield. Bon ben voilà, c'est que la deuxième fois en un an qu'on le voit catcher en pay-per-view, c'est quand même important. Le match annuel de Triple H quasiment.
Troisième fois, je crois que t'es
troisième fois,
parce qu'il y avait Survivor Series quand même.
Ah oui, effectivement, autant pour moi. Triple H aussi qu'on avait vu sur la série mais qui se montre assez rare, puis Stéphanie aussi, elle qui n'est là que très 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 rarement, donc du coup plus le début de Ronda Rousey, effectivement il y a du spotlight, hein, de la star power sur ce match, et puis là ce segment d'ouverture ça permet de pouvoir, je trouve que c'était intéressant en termes de scénario de faire ça, surtout de redonner un peu le pouvoir du moins à la fin de ce segment, vu comment ça se termine au couple Triple H et Stéphanie qui en sort victorieux. J'ai bien aimé aussi dans la promo à un moment donné Stéphanie qui dit à Ronda Rousey que c'est elle qui a choisi cette voie, ça sera sur elle, hein, ça sera sa faute si elle perd, et on sait tous comment elle gère les défaites en rapport à ses défaites assez tonitruantes à l'UFC. Donc là, c'était un bon scud, un bon fion bien envoyé de la part de Stéphanie. Voilà, après, comme tu l'as dit, Ronda Rousey au micro, c'est toujours pas ça. Et Stéphanie McMahon avec les prises, on le voit, c'est toujours pas ça non plus. Donc, c'est pas un match sur lequel il faut s'attendre beaucoup de catch, de beaux catch, je pense, dans le ring, hormis quand il y aura des séquences avec Triple H et Kurt Angle, hein. Mais dans tous les cas, je trouve qu'ils jouent bien la carte de l'histoire qu'ils essaient de nous raconter. C'était approximatif sur quelques points, mais ça reste divertissant et ça reste plutôt bien foutu.
Ouais, on voit un peu le talent de Angle et Triple H pour rattraper un petit peu les sorties de route de Ronda. Stéphanie, elle fait toujours le taf comme il faut. Ouais. Après, c'est sûr que effectivement, sur le déroulé des cascades, on va dire entre guillemets, Ronda, c'est pas encore ça. Elle est pas très élégante, hein, quand elle se fait emplâtrer à travers la table.
Non, après, il faut dire que la chose n'est pas très élégante du côté Stéphanie non plus. Elle se glisse derrière elle, mais très mollement. On voit pas d'impulsion quand elle la porte. C'est plus Ronda qui saute elle-même toute seule. Elle atterrit sur la table. La table ne rompt pas, ne brise pas de suite. On voit qu'elle atterrit puis ça se casse après. Donc ouais, ça manquait peut-être d'une un peu plus de dynamisme de la part de Steph et peut-être un peu plus aussi d'expérience dans le ring, de catch, hein, de la part de Rousey.
Mais en tout cas, on a une belle humiliation de Ronda Rousey qui devrait prendre sa revanche à Mania. Ça met un petit peu de piment dans tout ça. C'est pas plus mal. Bon, comme d'habitude, toujours peut-être un petit peu long pour un segment, mais encore quoi que. C'était plutôt une bonne entrée en matière pour ce Go Home Show. Du moins, ça fait avancer les choses, hein, sur les intrigues qu'on va avoir à Mania, une dernière avancée avant le grand fight. Alors, là, on avance moins, on va aller chez les filles. C'est Bayley, cette satanée Bayley, qui affronte Sonya Deville, hein, du clan Absolution, dirigé par Paige, Mandy Rose aussi, hein, qui accompagne Sonya Deville au ring quand même. Donc bon, un match standard, hein, on va pas s'éterniser là-dessus. Victoire de Bayley sur roll-up, normal dans un match de filles des weekly. L'absolution ensemble réunis attaque Bayley après le match. Évidemment, qui vient sauver Bayley dans ces cas-là? vous le donne en mille. The Boss, Sasha Banks, qui débarque en courant. Elle fait fuir l'absolution. Et là, bah, elle veut fêter la victoire avec Bayley, mais Bayley, elle n'est pas contente. Elle lui explique, non, j'ai pas besoin de toi, Sasha. Je m'en sortais très bien, tout seul. J'allais pas tarder à me relever et leur casser la binette.
Oui.
Sasha dit, non, je t'ai aidé, tu me lèves la main, comme si on avait gagné, tout ça. Et là, Bayley, elle s'énerve, elle lui met une baffe, ça se fout sur la gueule. Là, évidemment, l'absolution en profite. C'est la première fois que je vois des méchants aussi intelligents. Ils profitent que les deux sont en train de se taper dessus pour revenir dans le ring et les tabasser à leur tour. Les deux anciennes copines sont séchées, hein, elles sont atomisées dans le ring, et l'absolution est là, triomphante. Alors on n'en finit plus de cette rivalité qui n'en est peut-être pas une, je ne sais pas, entre Bayley et Sasha Banks. C'est le plus long turn de l'histoire depuis Seth Rollins. Qu'est-ce que t'en penses de tout ça?
Alors déjà, le match, j'ai pas trouvé match lambda ni habituel. J'ai trouvé que ce match était pas horrible, mais pas très loin. C'était pas bon, quoi. Il y avait des botches, c'était mou, c'était lent.
J'ai cru que t'allais me dire que c'était pas mal. J'avais vraiment bien aimé ce match, à la grande surprise.
Franchement, moi, j'ai trouvé que c'était très bien. On voit vraiment toutes les qualités catchesques de Bayley, tout l'avenir qu'il y a devant Sonya Deville. Non, c'était mauvais. C'était très, très mauvais. Franchement, c'était pas du niveau de Bayley et pas du niveau de ce qu'on a vu précédemment de Sonya Deville. Donc, je sais pas ce qui s'est passé, mais le rythme était complètement en vrac.
Peut-être manque d'envie,
peut-être que elles ont appris 10 minutes avant. Bon, en fait, on a un trou de 10 minutes finalement. On a besoin de vous. Ouais. Après, sur l'intervention de Sasha, qu'elle arrive, qu'elle la sauve et qu'elle lui dise bah, vas-y, lève ma main, je t'ai aidé, lève ma main, lève mon bras. Je trouve que ça va un peu, c'est un peu peut-être un peu too much, mais voilà, on va pas être pingre quand ils avancent un peu vite sur cette histoire qui met du temps de mettre en place, puisque voilà, ça remet en place le côté, le personnage heel de Sasha Banks, la boss. Ok, je suis en déni de la réalité complète, j'ai droit à tous les honneurs, je suis la grande gentille parce que je t'ai aidé, alors qu'en fait, non. Donc ça, c'était pourquoi pas, quoi. Mais c'est effectivement, je vois pas aujourd'hui l'intérêt dans l'Euro avant Mania de mettre un élément sur cette storyline et celui-ci, puis de toute façon, les deux vont être au Rumble féminin. Donc elles auront toute la place dans le match de développer quelque chose s'il y a besoin. Là, c'était un match qui n'était pas bon, qui ne fait avancer rien finalement et qui ne sert ou qui n'amène à pas grand chose. Donc clairement indispensable totalement.
Ouais, belle perte de temps. Voilà, ça fait des mois et des mois hein, qu'ils essayent de finaliser cette histoire. Ça tourne en rond. Voilà, moi ça fait un moment que j'ai décroché. Hein, maintenant, j'attends que ça se termine, qu'elle passe à autre chose. On n'aura pas le payoff qu'on attend, ou on l'aura au du lendemain, je pense, à mon avis. Parce qu'ils vont pas, je pense pas qu'ils vont développer non plus quelque chose de très très scénarisé sur la bataille royale des filles. Hein.
Non, ce sera l'occasion de faire des comme tous les matchs, à beaucoup de faire des rivalités qui vont partir sur des événements qui ont eu pendant le match. Et bon, ben pourquoi pas quoi. C'est peut-être un accélérateur à storyline ou un lanceur à storyline, pourquoi pas.
Pourquoi pas?
Ouais, why not?
D'ailleurs, on viendra se placer en kick-off, hein, cette Battle Royale. Il y a une confirmation un peu du programme du kick-off, on y reviendra après. On a un petit package vidéo sur Asuka, sa vie, son œuvre, hein, avec plein de chiffres, son temps de règne. J'ai rien noté, hein, pour être honnête. Mais voilà, c'est une grande championne. Tout va se jouer à WrestleMania. Voilà, bon, on la reverra un peu plus tard dans l'émission, hein, Asuka. On en reparlera, mais c'était un joli packaging. Le Miz et Papa, on nous apprend.
Enfin, ça y est.
Ça y est.
Oui, parce qu'il y avait un doute hein, quand même. Nous avons entendu dire que si sa fille naissait pour WrestleMania, bah, il serait pas là. Donc, tant mieux, entre guillemets, qu'elle soit née maintenant, que tout le monde va bien et que du coup, on a la confirmation qu'il sera bel et bien là pour son match triple frite hein, contre Baylor et Seth Rollins.
Elle s'appelle Monroe Sky.
Ouais.
Est-ce que tu trouves que c'est un joli prénom?
C'est très américain. Ouais. Très, très people. Hein. On appelle ça Monroe comme Marilyn Monroe, Sky comme le ciel. Voilà, Monroe Sky Mizanin.
Ouais. On, ça va être galère pour elle. Si elle fait pas star de la télé, elle va être emmerdée un petit peu.
Ah bah avec les parents qu'elle a, c'est compliqué. Hein. Elle a frôlé le Monroe Awesome Sky, hein, donc c'est... ça aurait pu être pire.
On était pas loin. Voilà, des idées, hein, si vous êtes enceinte, pensez à ce prénom, Monroe Sky. D'ailleurs, il va en parler beaucoup hein, de Monroe Sky oh, dans oui. le match qui suit. Finn Balor affronte Seth Rollins et le Miz est au commentaire. Alors c'est un, quelque part c'est un super match entre Finn Balor et Seth Rollins
ah, ouais.
qui nous font un truc quasiment digne d'un pay-per-view.
C'est ça, surtout après le match Bayley contre Sonya Deville, c'était ok, ce qu'il faut pas faire et ce qu'il faut faire, voire faites pas ça en weekly quoi, c'est pas la peine.
Un peu trop.
Ouais.
En tout cas, le public est bien dedans. Nous, on a un peu plus de mal en tant que téléspectateurs parce que le Miz parle tout le temps. Il nous sort un petit peu de l'action. En plus, il y a un packaging vidéo sur Nakamura et Jay Styles qui est mis à l'antenne au milieu. On ne sait pas pourquoi, sous forme de vignette, avec en petite vignette le match, en grande vignette le résumé de cette rivalité. Donc, ils vont nous refaire un remake du coup de la barricade qui avait blessé Finn Balor. La powerbomb dans la barricade d'insécurité qui est finalement esquivée par Baylor qui va placer son shotgun dropkick là, pour envoyer Rollins se manger à son tour la barricade. Et donc, alors on a une tentative de Falcon Arrow là, qui est contrée encore une fois par Baylor comme il l'avait fait il y a quelques semaines par un petit paquet, mais Seth Rollins s'en sort. Seth Rollins va encore tenter un frog splash qui va se faire contrer par les genoux, et puis encore petit paquet, mais Finn Balor n'arrive pas à garder le petit paquet, donc Seth Rollins s'en sort. Et finalement, c'est victoire de Rollins sur un curb stomp out of nowhere, joliment placé. Donc voilà, victoire de Rollins. Le Miz, qui a beaucoup parlé, monte sur la table des commentateurs, brandit sa ceinture intercontinentale. Hein. On sait que les trois, au final, vont se faire face la semaine dernière. Ma question,
oui.
Parce que tout ça était très bien, mais est-ce que c'était pas plus judicieux de faire un match d'à côté Finn Balor contre un des deux du Mistourage et pareil pour Rollins plutôt que de les faire s'affronter comme ça en weekly une semaine avant dans un match qui sera peut-être meilleur que le Triple Threat?
Bonne question. Alors, dans un Raw où il y a d'autres bons matchs, au moins un bon match de catch, j'ai envie de dire oui à ta réponse, à ta question, hein, que peut-être les garder séparés jusqu'au pay-per-view ça aurait été bien. Par contre, dans un Raw comme celui-ci, où finalement le seul vraiment bon match c'est celui-ci, ben t'as quand même besoin sur tes 3 heures d'avoir un vrai match de catch, quoi. Et c'était
ouais,
un peu le seul match de catch qui valait son pesant cacahuète. Il y a un niveau, en fait. Quand on regarde ce match et les autres matchs de cet épisode d'Euro, on se rend compte qu'il y a une espèce de fossé énorme. Après, c'est vrai que c'est un Raw, il y a eu beaucoup de segments, comme on va le voir, et il y a peu de place pour du catch, hein, mais le peu de catch qu'on a vu, c'était les seuls moments, ce match-là, où vraiment il y avait des trucs qui étaient... le public était dans le match. Et moi, j'aime bien la construction qu'ils ont faite, quand même, malgré tout, dans cet affrontement, c'est que de nous... Ils font tout pour nous faire croire et réussissent, je trouve, que les deux sont quasiment de même force, en fait, sont quasiment égalité. Même si il leur faut bien un à la fin qui gagne. Et ils ne sont pas allés vers la facilité avec genre le Mistoura, justement, qui rush le ring pour taper les deux et on annule le match et voilà, truc qu'on a vu 15 000 fois. Bah, c'est bien qu'ils aillent aussi à dire bon, ok, il y en a un des deux qui gagne, mais après tant d'esquives des finishers de l'un de l'autre que ça aurait pu être Balor qui prenait l'ascendance, ça aurait pas été étonnant, quoi. Donc non, le match était bien et c'était bien raconté et vraiment on a cette vision maintenant pour moi très claire de ok, Rollins et Balor sont du même acabit, sont au même niveau en termes de capacité dans le ring, dans le qui est faible hein, de la WWE. Et puis ça donne un petit côté aussi que on va avoir un vrai match et pas juste le Miz qui va forcément faire ses tactiques de heel qu'il aurait fait la Arrow. Là non, il a pris de la place aux commentaires mais il n'est pas intervenu dans le match et ça a pu laisser ce beau match avoir lieu, donc ça c'est plutôt cool. Mais après c'est dur donc de savoir qui va l'emporter, hein. C'est un peu sur le chat là, on salue, il y a notamment Koala, Écarlate et Galuf hein, et on discute notamment de ce match et Koala qui nous dit que le Miz dans sa promo aux commentaires parlait d'être que le Miz est un nouveau Miz maintenant puisqu'il est père et que du coup ça change un homme et il a eu un positionnement un peu moins heel dans les commentaires
Ouais, ouais, il annonçait qu'il allait sortir un grand match, que ça allait être les trois grands techniciens dans le ring là. Effectivement, un petit changement d'alignement pour le Miz. Bon, on va pouvoir voir si c'est que deux façades ou si c'est ça va se vérifier dans les faits.
Non, je sens bien qu'il va rester. Il est trop bon, il, pour que. En plus, autant il y a une époque, il y a peut-être un an et demi, deux ans, quand il était à SmackDown, il aurait pu faire le basculement, je pense, en tant que face. Ouais. Là, c'est pas la dynamique actuelle du Miz. Ça serait un peu brutal, donc du coup.
De toute façon, là, on l'a déjà eu en babyface, le Miz, c'est assez. C'est pas très digeste, hein.
C'était il y a très longtemps. Là, avec l'expérience qu'il a prise en plus et l'assurance qu'il a prise autant dans le ring qu'au micro, on peut peut-être à un moment donné lui redonner sa chance. Mais la dynamique, elle n'est pas vraiment dans cette direction-là. Ou peut-être, peut-être un double turn. Hein. Double turn, Finn Balor et Miz qui double turn dans le match et Seth Rollins au milieu qui ne sait pas quoi faire.
Non, mais il faut quand même qu'on ait notre match Daniel Bryan The Miz. Donc il faut qu'il reste méchant The Miz, parce qu'on va pas faire tourner Bryan.
Non.
Mais bon, bah écoute, c'est suspense un petit peu. Hein. On sait pas qui va gagner à Mania. Ça c'est plutôt sympa. Maintenant, bon, il y a pas vraiment de tenant et d'aboutissant dans cette rivalité. C'est ça qui est un peu dommage. Mais bon, on ne doute pas que ce sera un bon match de toute façon, que le spectacle sera là. Alors la suite des opérations. C'est le kick-off tiens, qui est annoncé par nos amis les trois Stooges. Donc les deux Battle Royale, André the Giant Battle Royale d'un côté, la Woman Battle Royale de l'autre, hein, qui n'est plus la fabuleuse Moula, Tim Maride Battle Royale, et le Cruiserweight Championship, évidemment. Qui a sa place, qui sera peut-être le main event du kick-off. Hein. Donc, Cruiserweight Championship, c'est Cédric Alexander contre Mustafa Ali. Ça peut donner un super match. Maintenant, les deux sont un petit peu. Quoique Mustafa Ali, il est bien cool quand même. Un peu dans le rush.
Parce que, ouais, Cédric Alexander, il est pas cool, c'est ça?
Ah non, il est pas cool du tout avec ça. Mais peut-être que tu fais partie des fans de Cédric Alexander, mais à mon avis, ça fait longtemps que t'as pas regardé tout ça.
Ça fait un petit moment, ouais. C'était il y a deux semaines, la dernière fois que j'ai regardé.
Une bien belle émission. Donc voilà, donc ça c'est annoncé le kick-off. Paul Heyman et Kurt Angle dans les vestiaires. Angle demande à Heyman de ne surtout pas jeter de l'huile sur le feu ce soir. Il veut pas que ça dégénère et que par exemple Brock soit blessé. Ce qui fait bien rigoler Paul Heyman. Hein. Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois vraiment qu'il y a un risque pour Brock? T'inquiète de rien, on va hyper le match. Hein. On sait faire, on est des pros. On verra un peu plus tard ce que ça donne. Ça, c'est pour le main event. The Bar démarque dans le ring. Ils interpellent Braun Strowman. Ils expliquent que on ne sait toujours pas qui sera son partenaire, mais de toute façon, qui que ce soit à WrestleMania, son partenaire pour le championnat tag team, hein, parce que je vous rappelle que Strowman a gagné la possibilité, le title shot pour les ceintures tag team, même s'il est tout seul. Quoi qu'il se passe, il ne sera jamais une équipe, hein, parce qu'une équipe, c'est du boulot, comme ils ont déjà expliqué. Là-dessus, Strowman débarque, il confirme qu'effectivement, il fonctionne mal avec les autres gens, hein, un peu un sociopathe.
C'est ça.
Mais il a un partenaire, hein, et il vient de parler avec son partenaire dans les vestiaires, et son partenaire n'est pas content de ce qu'a raconté Sheamus et Cesaro. Alors eux, ils veulent le connaître, qu'ils viennent se montrer s'il n'est pas content. Braun Strowman dit d'accord, il va me dire, mais à une condition, il affronte un de vous deux ce soir. Alors, Cesaro et Sheamus finissent par accepter, et bon bah ok, vas-y, ramène-le ton gars. Alors, Strowman retourne au vestiaire, il dit bon bah je vais le chercher, mais je vous préviens, et il me ressemble quand même un petit peu, on n'est pas trop différent. Oh oh. Et là, donc il rentre dans les vestiaires, il disparaît, une musique retentit, c'est la musique de Braun Strowman. Et débarque le frère jumeau de Braun Strowman, avec des lunettes, une chemise, il s'appelle Braun Strowman, et il est carré comme Braun Strowman. Le match commence, les deux lui tombent dessus. Les lunettes tombent, et là, on se rend compte que c'est bien Braun Strowman. Et Braun Strowman finit par défoncer les deux champions tag team.
Cool.
Cool, trop cool. Ouais. Alors j'ai envie de dire, est-ce que en une séquence ils ont pas tué toute l'Overness de Braun Strowman?
Non, je pense que ça ne peut pas. Son Overness est trop grande comme lui pour être éparpillé et dilapidé aussi vite. Mais c'est vrai que c'était
bien. C'était calme à la fin.
Bah c'était nul.
Bah c'était nul à chier.
Il y a pas d'autre mot. C'était nul. Je veux dire, enfin, je comprends pas. Là, j'ai pas compris ce segment. Vraiment.
Ah, ils ont dû croire que c'était une bonne idée, mais
Non,
c'était une mauvaise idée.
Je sais pas si c'est pas Vince qui s'est dit bon, attendez, je suis sûr qu'on peut buzzer plus que l'Ultimate Deletion. On a qu'à faire Braun Strowman en déguisé, hein, ça va être un frère Brent et ça va buzzer plus sur Twitter que Ultimate Deletion. Non.
Braun Strowman, ça c'est drôle.
Ça ne marche pas. Bon. Au début, je me suis dit, tiens, c'est peut-être un hommage aux Dudley Boys, puisqu'il avait des lunettes noires avec le scotch blanc à la boulirée, mais non, même pas. C'était pas compréhensible. Le segment qu'on avait backstage après était plus drôle que tout
voilà.
ça.
Voilà, je vais y venir. Ouais. On retrouve Strowman dans les coulisses qui se balade. Bon, ça c'est un peu plus tard dans l'émission. Hein. Il se balade et il tombe sur Kurt Hawkins, qui a un joli t-shirt Pick Me Brown, et qui lui explique que ben voilà, ce serait parfait si Braun Strowman pouvait le choisir pour être son partenaire à WrestleMania. Les gens sont très contents, ça pop. Alors Strowman lui demande ben, c'est quoi ton win-loss record, hein, tes statistiques, la victoire-défaite. Kurt Hawkins, il dit bon, c'est pas top, mais bon, voilà, si je vais à WrestleMania, ce sera mon big break, hein. Alors là, Strowman le prend et il lui fait traverser le mur, il le jette. Ce Kurt Hawkins s'étale comme une grosse merde. Strowman lui dit bah voilà ton big break, hein. Et il s'en va. C'était magnifique, j'ai adoré.
C'était très drôle ça.
La position de étalé comme une crêpe de Hawkins. Ah oui.
Hawkins a très bien vendu le truc, ça va pendant la promo, pendant le traversage de mur. C'était génial. C'est à se dire pourquoi ils n'ont pas juste fait un ou deux segments dans ce style-là durant l'émission, et pourquoi ce segment sur scène qui ne servait à rien, qui ne donne pas plus d'informations sur qui va être le partenaire de Braun Strowman de toute manière. Ouais. Donc ça ne servait à rien à part de montrer que, ben, objectivement, a priori, Braun Strowman peut se faire tranquillement les champions par équipe. Et même si dans leur promo chez Mus et Cesaro on dit oui, mais voilà, même si t'es grand et fort, dans une équipe il faut que tu puisses taguer et que tu tag in, tu tag out. Bah en fait, non. Si Strowman commence le match et qu'il décide de pas taguer son partenaire et que le partenaire ne le tag pas, il peut faire tout le match s'il veut.
Exactement.
Donc, il pourrait avoir Hans Vogel dans le coin ou un balai avec un costume de catcheur et c'est pareil, quoi. Donc, j'ai trouvé ça, vraiment, vraiment raté, mauvais, pas bon du tout.
Ouais. Ils auraient dû le garder, ce segment avec Hawkins, pour WrestleMania, justement. C'était cool. Kurt Hawkins qui a plus de 200 défaites d'affilée, je crois. Voilà, donc ça c'était marrant quand même. Mais sinon, bah, ça ne fait pas avancer le débat. On ne sait pas qui sera le partenaire de Braun Strowman. On est un peu frustré, puis c'était pas marrant. Et donc, bon, là on est déjà mal hein, dans l'émission.
Et toi, ton partenaire, qui tu penserais comme partenaire pour Strowman? Rapidement, est-ce que tu as un avis sur la question?
Alors on en a déjà parlé, moi je pense qu'Ilias peut être une bonne solution. Kurt Hawkins, c'était ma deuxième solution. Sinon moi je suis assez partisan de le voir gagner seul, mais avec ce qu'ils ont monté là, la dernière séquence là où il arrive avec les lunettes, je l'aurais pas vendu comme ça, quoi. Donc c'est maintenant j'ai envie qu'il y ait quelqu'un qui arrive mais qui soit surprenant. Alors pour imaginer Neville par exemple, s'ils arrivent à avoir on aurait le tout petit et le tout grand, mais il faudrait qu'ils arrivent à le...
I'm the king of the tag team.
Voilà. Sinon, je sais pas, ouais.
Là, il y a Sam sur le chat, Sam qui parle de James Ellsworth, un retour de James Ellsworth pour venir épauler Braun Strowman.
Ouais, ça serait pas mal, mais moi j'ai quand même l'impression que s'ils ont viré Ellsworth, c'est qu'ils avaient quand même une bonne raison. Je les vois mal le reprendre juste pour ça. Il serait encore dans le roster, ça aurait été la personne parfaite. Et ça aurait peut-être été sûrement mieux que ce qu'ils vont faire, mais.
Et pourquoi pas un retour de Dean Ambrose.
Ouais.
Parce que du coup, Dean qui revient récupérer la ceinture qu'ils avaient avec cette Rollins.
J'ai entendu des trucs sur Ambrose qui a été retiré de pas mal d'événements qu'il devait faire. Alors, pas du catch, vu qu'il ne peut pas catcher, mais des trucs de signature et de choses comme ça. Mais bon, on n'a pas les... On n'a pas les infos précises de ce qu'il a comme problème. Donc, je ne sais pas du tout s'il est, où en est son état de santé.
Parce que j'aurais bien vu revenir et avoir un côté un peu comique avec Braun Strowman. Je pense que Dio aurait bien pu marcher entre le côté monstrueux de Strowman et le côté allumé d'Ambrose. Et puis, ça peut toujours poser la feud avec Rollins. Rollins qui fait, mais attends, mec, tu fais quoi? Bah, écoute, moi, tu m'as remplacé. Moi, je te remplace aussi. Sauf que moi, j'ai une ceinture, pas toi.
Bim. Ouais, exactement.
Ou sinon, il y a Galuf qui est apparemment un habitué des blagues sur Noé Rossé qui dit Noé Rossé qui débarque.
Voilà, monté dans le roster.
Ça n'arrivera pas, Galuf. Pas de Noé Rossé avec Braun Strowman à Mania.
Ah, Elias peut être la solution logique.
Ouais.
Mais Dean Ambrose, on va le mettre de côté aussi. Ou alors Bray Wyatt.
Nouvelle version.
Nouvelle version, hein, parce qu'ils étaient quand même ensemble à une époque.
Oui.
La réunification. En Sister Abigail. Hein, j'ai une maquille en femme, là, il le fait venir de force. Bon, enfin bref.
Cool.
Yeah. Bon, continuons dans le jeu What the Fuck. Goldust is in the house. On a le droit à une petite séquence vidéo où il nous dit qu'il va gagner la Battle Royale. Et ensuite, Matardi qui dit qu'il va gagner aussi la Battle Royale. Toujours un petit peu mystique, hein, Walk and Mat. Et pour comment dire, finaliser tout ça, le gâteau sur la cerise, un match Matardi contre Goldust, qui est gagné par Matardi sur Twist of Fate. Voilà. Un petit mot là-dessus, Amiral. Je sens chaud.
Est-ce que c'est possible de pouvoir deleted ce match, ce moment embarrassant du catch moderne? Non, voilà, c'était pas bon.
Allez, deux vétérans là, bon roster. Hein.
Ouais. Comme quoi, les vétérans, c'est pas toujours une bonne idée. Hein.
Non, parfois. Surtout que Matardi ne peut plus faire grand chose. Encore, je trouve que Goldust il est en bonne forme, même si.
Ah bon, tu penses que Goldust est plus en meilleure forme que.
Au moins, il peut plier les genoux.
Ah, ouais.
Mais bon, on n'est pas en 2003, hein, donc il faut quand même nous proposer autre chose. Hein, on nous parle à John Cena, il nous parlera un peu plus tard des gens qui piquent les spots des catcheurs qui sont là toutes les semaines. Bon, ouais. On a toutes les semaines Matardi et Goldust, mais peut-être laisser un petit peu la place aux jeunes.
Non, c'est un peu bizarre quand même de voir là Matardi qui job, enfin Goldust qui job pour Matardi. Est-ce que par rapport à ce qu'il y a eu avec l'Ultimate Deletion et le succès sur les réseaux sociaux que ça a eu, est-ce que le voir en match comme ça de 2 minutes contre Goldust, c'est plutôt un signe de ok, on le maintient et sur une rampe un peu de hype ascendante, ou est-ce que c'est bon, ça y est, t'as fait ton truc maintenant, mais bon,
hein. Apparemment, il part quand même sur une rivalité avec Michael Cole, Matardi. Parce que Michael Cole a cessé de descendre The Ultimate Deletion. Ils sous-entendent quand même dans les commentaires que pour l'instant, Matardi il est focalisé sur la Battle Royale, mais il se peut qu'après Mania, il en revienne à Michael Cole. Il se peut qu'on ait une rivalité de ce genre pour le bon Matardi.
C'est une super nouvelle.
Ouais, de bons moments en perspective.
Oui, parce que les dernières fois qu'on se rappelle de Michael Cole, à l'époque de Jack Swagger, du Miz, etc., c'était top. Hein.
Ouais. Double top, j'ai envie de dire. Donc voilà, on se prépare des belles semaines, si tout ça se précise. Maintenant, Jeremy Borash est dans la place. Ouais. Et ils vont peut-être nous faire un truc Final Deletion. Ce serait bien qu'ils fassent un truc où ils se courent après là, dans les vestiaires comme ils font souvent. Après, ils partent dans la ville, ils font des trucs, mais bon, ils n'ont pas l'air décidés à faire ça. Allez, on continue. Mickey et Alexa Bliss en petite séquence selfie où elle se moque de Nia Jax parce que Nia Jax est grosse. Et ensuite, John Cena. John Cena au milieu du ring qui continue donc sa rivalité unilatérale, ça peut se dire ça,
ouais. À sens
avec,
unique
à sens unique avec l'Undertaker. Donc une John Cena nous explique, j'avais tort, je pensais qu'il y aurait quelque chose de la part d'Undertaker, que j'aurais mon match, mais non, pas de réponse. Donc quand on n'a pas de réponse à un challenge qu'on lance, bah, c'est un non, pas d'Undertaker pour WrestleMania. Moi j'ai fait tout ce que j'ai pu, hein, nous dit-il. Et donc bah, comprenez bien que je vais aller à WrestleMania, je suis hypé, mais j'y vais en tant que fan. Je ne prendrai aucun raccourci. J'en ai discuté avec Michael Cole, encore lui, hein, décidément, et omniprésent ce Michael Cole. Je n'ai fait que perdre hein, depuis, depuis ces derniers mois.
C'est vrai.
Je ne veux pas piquer le spot d'une superstar qui est là à plein temps.
Non.
Voilà. Là, je suis un peu pressé de retrouver ma femme, hein, qui apparemment lui a fait une caterie le matin. Sa vie est en train de changer. Hein, il y a plein de choses qui se passent pour lui. Et peut-être que ce WrestleMania, c'est l'occasion pour lui de d'officialiser ce changement, hein, cette virée vers Hollywood. Hein. Transformer 73, il sera dedans. Il est fier d'aller à WrestleMania en tant que fan. Il nous fait un petit peu la promo de toute la carte là. Il dit qu'il est content d'aller voir Rollins, Finn Balor s'affronter, qu'ils n'ont pas besoin d'eux pour mettre du star power sur la carte. Il est content de voir AJ Styles qui a enfin son WrestleMania Championship WWE Moment. Content d'aller voir Elias aussi, même s'il ne sait pas encore ce qu'il va faire. Il s'excuse pour l'Undertaker, mais il se rend compte que bah, Atlanta, ce soir, parce qu'ils ont essayé de l'invoquer dans toutes les villes, mais il se rend compte que ce soir, ils n'ont même pas essayé de l'invoquer. Alors c'est parti, il fait rugir la foule, il fait lancer les chants Undertaker, mais rien ne se passe. Alors John Cena nous explique que voilà, quand on ne répond pas à la foule, hein, bah, on est un dead man walking. Et que l'Undertaker a laissé son chapeau à WrestleMania dans le ring. Mais il a aussi laissé ses balls à la maison. Et ça se termine là-dessus. Donc toujours et visiblement pas de match entre John Cena et l'Undertaker à WrestleMania. Pas de match pour John Cena. Qui sera peut-être à côté de Hank ou de Giscal, avec un peu de chance.
C'est ça.
JRM. Hein.
Non, pas à côté de Giscal. Giscal s'en mettra jamais.
C'est vrai.
Il fera une attaque et il ne verra pas.
Il ne verra pas du tout WrestleMania.
Si il se retrouve à côté de Hank, Hank arrêtera pas de lui gueuler à l'oreille. You suck, you suck. Pendant 5 heures, voire 7, avec le pré-show, donc ça va être horrible, je pense que voilà. Donc non. Non, moi je m'attendais avant cette histoire de Undertaker machin que Cena soit peut-être un host de WrestleMania, comme elle a été le Rock, comme elle a été New Day l'année dernière. Ça aurait pu être pas mal, puisqu'il a été host de plusieurs shows, récompenses, etc. Oui. Cette histoire Undertaker, bon, bah, pas de réponse. Ça me dérange pas qu'ils annoncent pas le match, qu'ils confirment pas le match avant. Je m'en fiche, et puis je crois que la carte est suffisamment bien pleine de plein de trucs pour pas que ça soit un argument de vente, pour pas qu'ils... Ça montre qu'ils sont confiants dans le fait qu'ils vont vendre... Enfin, ils auront pas à pâtir en termes d'achat de pay-per-view, enfin de subscription pour Network et de place dans le stade, de pas annoncer un match de Taker. Surtout que bon bah, les gens se doutent qu'il y sera. Maintenant, encore une fois, en termes de storyline, qu'est-ce que tu fais avec ça? Enfin, parce qu'il reste quoi? Il reste SmackDown, à moins que John Cena vienne encore taper encore 10 minutes de promo à SmackDown. Genre l'ultime chance pour Taker de se réveiller. Je vois difficilement, ils vont faire un match on the spot comme ça. C'est tellement qu'ils n'ont rien à dire entre Cena et Taker qu'ils vont même pas les faire se rencontrer dans un ring avant d'être dans le ring où ils vont faire le match à Mania.
Mmh. Ouais, on est au degré zéro de la rivalité là. C'est quand même. je comprends le concept, mais il faut pas faire ça en vérité parce que c'est.
Je veux pas, messieurs dames, hein, faut pas faire ça.
Non. Parce que voilà, là maintenant, s'ils font le match, ben on aura eu une rivalité complètement abstraite. S'ils font pas le match, bah, ils nous auront quand même teasé comme des porcs pour rien nous donner au bout du compte. C'est ni gagnant ni perdant, c'est quand même un beau gaspillage de...
Ouais, ou alors comme le suggère Galus sur le chat, peut-être que Taker va débarquer à SmackDown le lendemain seul. Il y aura pas Cena, mais...
Rappelons que SmackDown Live est sa maison à l'Undertaker.
Oui, Taker, voilà. Hein. Mais il est beaucoup en vacances en fait, hein. Il est pas
c'est
souvent
ça,
là.
Ouais. Parce qu'il a une autre maison.
Ah, oui, parce que avec Michel, on a une maison sur la plage aussi. Et... non, je sais pas. C'est vrai que c'est bizarre. Oui, je pense qu'il y aura un truc à SmackDown demain. Ça me paraît complètement bizarre qu'il y ait rien du tout. Sinon, c'est Ou alors, ça va être un... Est-ce qu'ils vont oser faire ça? Est-ce qu'ils vont oser mettre John Cena pendant 4 ou 5 heures dans le public quelque part, ouais, en train de faire le foufou tout le temps et avec des caméras qui viennent, etc., plusieurs fois s'arrêter autour de lui, même voir qu'il fait des petites interventions, interviews comme ça, où il diffuse ses versions, ses selfies, vidéos, vlogs et compagnie. Et à un moment donné, la lumière s'éteint. La lumière se rallume et derrière John Cena, dans le public, il y a l'Undertaker qui lui fait un choc slam et puis ça finit sur le ring. Et là, un match bagarre improvisé, je sais pas.
Peut-être bien que c'est parti pour ça, ouais, ouais. Effectivement. En tout cas, va falloir nous sortir un truc un peu surprenant parce que sinon, on aurait été sur quelque chose d'assez décevant. Alors, j'ai ma petite théorie, je me dis que c'est peut-être John Cena qui a poussé un petit peu pour être au centre du truc, histoire de montrer un petit peu ses talents d'acteur, vu qu'il essaye de se vendre à Hollywood. Mais c'est ma simple théorie. Ouais, écoute, tant qu'à faire, un WrestleMania moment comme ça, Undertaker qui débarque au milieu de la foule et un combat qui démarre au milieu de la foule, ça peut être un moment percutant. Hein.
Ouais.
Voilà, en tout cas, ce soir, bon, on n'a pas eu grand-chose de nouveau. On a quand même vu tout le talent de John Cena pour faire lever la foule. On voit que les gens, quand même, veulent voir ce match.
C'est ça.
Ils sont prêts à donner de la voix pour l'avoir.
Je pense pendant 10 minutes, il est seul dans le ring avec le micro et tu t'emmerdes pas, quoi. Donc,
c'est vrai. C'est vrai que c'était peut-être un petit peu un des meilleurs moments du show. Ouais. Retour au vestiaire. Kurt Angle discute avec Roman Reigns, le nouveau patron du roster. Ne fais rien qui mettrait en péril le match, Roman, s'il te plaît. Roman Reigns Angle, il dit ça va aller, hein, je sais ce que je fais, j'en ai marre, tu m'emmerdes. Et il retourne au ring. Alors il y a une allusion sur les médailles olympiques de Kurt Angle, mais j'ai pas bien compris.
Alors en fait, Reigns lui dit que son traité de paix, son pacte de paix entre Reigns et Brock Lesnar, il peut bien se mettre où il pense. Hein. Il a qu'à aller le vendre au prêteur sur gage, là où il a vendu sa médaille olympique.
Ça, d'accord. Kurt Angle a vendu sa médaille.
Non, je pense que c'est une façon pour Reigns de dire hey, t'as qu'à prendre ton traité de paix et le mettre là où t'as mis tes balls. Donc ouais, Roman Reigns, ce grand face qui crache à la gueule du general manager face du show, quoi.
Ouais, encore une fois très bien.
Bon booking, très clair, bien, très net.
C'est... Voilà, c'est très très bien. Moi, j'ai trouvé un peu plus convaincant que d'habitude Roman Reigns.
Il avait deux phrases à dire, ça va.
C'est ça, un peu poète, c'est pas faux.
Dans une insulte, ça va. Le mec, il sait faire, quoi. C'est le gros chien quand même.
C'est quand même
il s'est grogné.
Ouais, il n'était pas au milieu du ring, c'est dans les vestiaires.
Peut-être qu'ils ont mis 4 fois pour la faire, ça là. Hein. Je sais pas. Prise 5.
C'était pas du tout du direct. Il était doublé post 5.
Bah ouais, mais je sais pas justement, pour toutes ces petites vidéos-là, elles peuvent être autant en fait, tournées en live que tournées 10 minutes, un quart d'heure avant qu'elles soient diffusées pour en faire 2, 3 s'il faut. Ça, je sais pas si c'est. Si c'est forcément toujours du one shot en live, ces petites vidéos backstage ou pas, quoi. Parce que ça peut même tourner. Deux heures avant, après, quoi. T'en sais rien.
Ouais. Bon, je pense que c'est un peu plus en direct, mais bon, on verra bien. On verra bien si un jour on a
des explications. On verra bien quand Ankier et vont infiltrer le backstage par la Gorilla Position. On a un plan. Vous
allez voir comment ça se passe maintenant. Qu'on tire le fameux de cette histoire.
Caméra embarquée, tout ça. Mm.
Qui donne les ordres dans ce bordel?
Voilà. Are we good? No.
Ilias.
Oui.
Au milieu du ring avec sa guitare, hein, il va nous en laisser chanter sa petite chanson, mais d'abord il casse un petit peu la ville de où il est. C'est quand même dommage qu'on termine à Atlanta, la route to Mania.
Bah c'est pourri quand même comme ville, hein, faut dire ce qu'il
y a. Ouais, ça daube un peu. Hein.
Ouais.
Voilà, bon, il va chanter, mais il est interrompu par Heath Slater. Toujours accompagné de Rhino. Y a un match, hein, parce que c'était prévu qu'ils s'affrontent. Et c'est gagné assez rapidement par Ilias avec le drift away. Après quelques coups de genoux sautés, là. D'un côté comme de l'autre. Voilà, bah, toujours fun, hein, Ilias.
Ouais, toujours bien dans son personnage. Dans le ring, quand c'est des matchs éclairs comme celui-ci, ça se débrouille.
Ça fait illusion.
Ouais, ça fait illusion. Qu'est-ce qu'il va faire, Elias, pour Mania? Il est à la Battle Royale? Non, il n'est pas annoncé hein, pour la Battle Royale.
Il n'est pas dans la Battle Royale, je crois pas. Ouais. Je le vois bien en hôte, moi, ou en partenaire de Strowman.
Voilà, c'est ça.
Des deux. Mais en août, ce serait pas mal. Il nous faut qu'il fasse une chanson. Je pense qu'ils vont lui laisser faire une chanson quand même.
Ouais, je pense. Ce serait que justice rendue, parce qu'il mérite.
C'est ça. Je pense qu'il y a un bel avenir pour ce bon Ilaïas.
Moi, je le verrais bien. Il y a toujours des chansons à la con par des chanteurs, Mania.
Ah ouais, il va peut-être venir pourrir.
Je vois bien arriver avec sa guitare, la smasher contre le dos d'une des stars de la chanson, et puis arriver sur le ring après, genre, même en plein milieu de la chanson, quoi. Ça serait bon.
Ah oui, voilà, c'est ça qu'on veut voir, un éclatage.
Ça me rappelle, il y a quelques années, Kevin Owens qui chope le chanteur de Machine Gun Kelly, qui avait fait, je crois que c'est à Mania ou à SummerSlam, un show. Et puis ils s'embrouillent les deux sur le niveau titantron, puis Owens il chope et il le pop-up bombe dans le vide. C'était ultra brutal, quoi. C'était gratuit, c'était génial. Voilà. Je verrais bien un truc comme ça.
C'est ça qu'il nous faut.
Ouais.
Mais plutôt, on a un match entre Alexa Bliss et Mickie James qui affronte Dana Brooke et Asuka.
Cool.
Voilà. Caviar. Victoire d'Asuka. Hein. Bon, d'abord, Dana Brooke se fait malmener. Hot tag. Asuka gagne avec l'Asuka Lock sur Mickie James. Mais Asuka est ensuite passée à tabac par la team Bliss James. Dana Brooke essaye de la sauver, mais elle se fait rapidement mettre hors service avec un joli double DDT. Et là, c'est Nia Jax qui débarque en courant. Je crois pas qu'on a parlé. Il y avait une interview avant de.
Ouais, de Bliss et
Nia Jax.
Oui. Ah oui, c'est vrai.
Bah, j'ai dû oublier de prendre des notes. Elle explique qu'elle était triste quand elle était petite parce qu'elle était grosse et que à WrestleMania elle va écraser Alexa Bliss.
Voilà.
Je trouve ça insupportable ce traitement de Nia Jax. Je sais pas comment tu le vis toi.
Bah disons que oui, le body shaming c'est pas forcément l'axe le plus intéressant pour faire une rage de combattre. Enfin, je sais pas, c'est un peu bancal, c'est un peu touchy, c'est pas convaincu quoi. Ils auraient pu prendre tellement d'autres choses que ça.
Ouais. On est d'accord,
En plus, tu sens qu'ils ont envie de passer un message plutôt positif, la WWE, dans cette histoire, que genre, c'est pas parce que tu es différente des autres et que les autres se moquent de toi que tu es moins bon qu'eux ou moins valeureux qu'eux, etc. Le message est positif, mais c'est tellement fait, étrangement et sans grande conviction que c'est un peu embarrassant, en fait, presque.
Et surtout sans talent.
Ouais.
Nia Jax aplatit Mickie James, hein, puis elle fait fuir Alexa Bliss. Elle a pas réussi à mettre ses mains sur Alexa Bliss encore depuis le début de la rivalité, c'est ce qu'on peut noter. Mais c'est vraiment une rivalité horrible, hein. Je suis pas du tout content.
La seule chose plus horrible que ça dans tout ce segment et ce match, c'était le temps que Dana Brooke a passé sur le ring. Il faut pas, c'est dangereux de laisser Dana Brooke aussi longtemps sur un ring. C'est bon pour personne. Hein. Faut pas faire ça. Surtout qu'il y avait une coupure pub et elle était dans le ring pour la coupure pub. Donc j'imagine les gens qui étaient à Atlanta qui ont vu Dana Brooke cacher pendant 5 minutes non-stop, voire plus. Ça a dû être, t'imagines, ça a dû être douloureux quoi.
C'est vrai. Ouais. C'est marrant qu'elles soient encore là, Dana Brooke. J'ai rien à un moment donné, tu vois que c'est pas fait pour toi le métier. Mais bon, bah écoutez, il fallait quelqu'un pour accompagner Asuka cette semaine et elle a presque fait le boulot. Ouais. Tristesse un petit peu, mais tout ça ce sera conclu à WrestleMania, on espère, et qu'on puisse passer à autre chose quand même dans toute cette histoire de la division féminine. Allez, on arrive au main event tout doucement, est-ce qu'on achève bien les chevaux. Brock Lesnar et Paul Heyman débarquent au ring, ils vont nous faire la promo de WrestleMania. C'est parti, on a le roster qui fait la sécurité, alors c'est le roster des tag teams qui est là pour garder l'entrée sous le titantron pour éviter l'intervention de Roman Reigns. On nous parle de contrôle, hein, Paul Heyman nous explique que c'est Brock Lesnar qui aura le contrôle. Il jure de dire que la vérité ce soir. Il nous explique que la victoire de Lesnar à WrestleMania c'est pas une prédiction, c'est un spoiler. Aucune échappatoire pour Roman Reigns. Même si Brock Lesnar perd suite à un accident, disons, admettons qu'il se blesse, il se tord la cheville, il glisse sur une peau de banane, je ne sais quoi, ce sera la dernière fois que vous verrez Brock Lesnar et Paul Heyman à la WWE. Il nous dira au revoir depuis l'UFC. Paul Heyman lui utilisera ses réseaux sociaux pour nous dire au revoir. Mais il va nous dire la vérité. C'est vrai, Brock Lesnar est un canard qui méprise le roster et les fans. Il choisit ses adversaires, il a des privilèges, mais c'est comme ça. Quand on est Brock Lesnar, eh ben, on peut tout se permettre. Roman n'aura d'autre choix que de perdre de toute façon à WrestleMania. Et Roman Reigns est un peu la bitch de Brock Lesnar, hein, soyons francs. Voilà. Il faut qu'il arrête de se la raconter. Il va se faire victimiser et puis il pourra juste aller le raconter à sa famille une fois que WrestleMania sera terminé. Bon, Roman finit par débarquer quand même parce que ça va bien 5 minutes. Mais il est bloqué par le roster. Alors là, il va tenter de les raisonner. Il leur dit qu'est-ce que vous faites là? Vous protégez un part-timer qui se fout de votre gueule et tout. Ben, il trouve les mots justes. Les superstars s'écartent. On lui fait une aide d'honneur pour le laisser passer. On monte dans le ring. C'est le face-à-face Brock Lesnar, Roman Reigns. Ça va être parti pour la baston, mais Brock Lesnar se défile. Il se glisse à l'extérieur du ring. Il va chercher une chaise. Il remonte, il va tenter d'attaquer Roman Reigns qui va placer un magnifique Superman Punch et ensuite un Superman Punch. Il va enchaîner avec un Superman Punch. Brock Lesnar vacille, ça va être l'heure de porter le coup de grâce. Superman Punch de Roman Reigns. Est-ce que c'est suffisant pour achever la bête, hein? Elle tente encore, elle bouge encore. Donc c'est le moment de placer un Superman Punch. Et là, Brock Lesnar est KO. Roman Reigns récupère la ceinture. Il la brandit vers le signe de WrestleMania, ce célèbre signe de WrestleMania qu'on a l'habitude de pointer du doigt. Mais il se fait cueillir par Brock Lesnar qui est déjà debout et qui le place en F5. F5 sur Roman Reigns, explosé, à terre, sonné, laminé, séché. C'est bien Brock Lesnar qui est triomphant ce soir. Il repart avec sa ceinture de champion universel sur l'épaule et les comptes se régleront à WrestleMania. Mais la bête, il va falloir y aller. Il s'est relevé de 5 Superman Punch.
C'est pas grave, puisqu'on sait que c'est le Spear qui va le clouer ça de toute manière.
Voilà, oui, c'est ça. Attendez qu'il s'inspire, mais il a oublié.
Il a oublié que c'est le mou lequel il finit tous ses matchs depuis un an à peu près, Roman Reigns. Hein. C'est dommage, voilà. Quand même. Encore une fois, promo impressionnant de Paul Heyman. Hein. Toujours très, très, très bon. Donc là, il nous vend le fait qu'en gros, ok, Brock Lesnar retourne à l'UFC. Surtout que plutôt dans le show, quand on était backstage, qu'il était au téléphone et que Angle arrive pour lui dire « Ouais, on va gérer pour que Reigns ne blesse pas Brock ce soir. » Eman parlait à quelqu'un, disait « On a qu'à appeler ça le Brocktogone, comme l'octogone de l'UFC, mais jeu de mots avec Brock Lesnar. » Donc voilà, tout ça, effectivement, tease un départ de Brock pour l'UFC. Que ce soit vrai ou pas, on ne sait pas, puis qu'importe finalement. Le segment est bien, même si ça ne change rien au fait qu'on c'est ultra prévisible ce qui va se passer à Mania. C'est pas mal, encore une fois, de hyper la tâche de titan, hein, la tâche d'Hercule que va avoir Roman Reigns pour pouvoir coucher pendant 3 secondes au sol Brock Lesnar. Donc voilà, hein, là on continue cette domination. Donc ouais, je pense qu'ils essaient de préparer le terrain pour que Roman Reigns, champion universel, soit bien accueilli par le public. On en a fait depuis quelques semaines, celui qui se fait la voix de tous les catcheurs qui suent sang et eau tous les jours versus les mecs qui se pointent une fois tous les 3 mois comme Brock Lesnar. Là, il y a le locker room, autant des faces hein, que des heels, hein, puisqu'on avait les Good Brothers, Anderson et Gallows, on avait Mistourage, on avait le Bar, on avait aussi The Revival.
The Revival, les Titus Worldwide.
Qui finalement décide de laisser passer Reigns contre les ordres de Kurt Angle, donc on le présente maintenant comme un peu le leader du vestiaire. Donc tout ça pour en faire le champion légitime que la WWE attend et a besoin. Bon, ça marche pas, qu'importe, mais l'effort est notable et plutôt appréciable. Le segment était pas mal.
Ouais. Bon, ils ont eu l'intelligence de pas faire parler au micro dans le ring Roman Reigns. Il parle avec ses poings ce soir.
Ouais.
C'est bien plus efficace. Brock Lesnar, bah, quoi qu'on en dise, même si c'est un part-timer, même peut-être qu'il en a rien à foutre du business, qui est très relatif, il fait quand même le job comme il faut. C'est quand même le mec qui s'impose, qu'il va falloir faire tomber. Il est détestable à souhait. Paul Heyman, c'est pareil. Non, c'est vraiment, c'est peut-être le meilleur segment de la rivalité depuis le depuis le début. Ça font, il est, y a pas trop de hijacking de la part du public.
Non.
Ils ont pas pourri la séquence, donc.
Non, le public était en tout cas niveau sonore était clairement derrière Reigns durant le segment. Donc.
Ouais. Ouais. C'est voilà, ça commence à fonctionner. Ben non, il faut vraiment pas trop donner le micro à Roman Reigns. Il est quand même beaucoup plus convaincant quand il joue simplement des points, parce que on l'a vu encore tout au long de la rivalité, quand il prend le micro, il a tendance à s'enterrer lui-même. Hein. Donc voilà, si on joue la carte comme ça, faut savoir hein, jouer avec un peu les qualités et les défauts des catcheurs, appuyer sur les qualités puis essayer d'esquiver les défauts. Par exemple, Brock Lesnar, on le fait pas parler du tout parce que quand il parle, il a une voix d'enfant là qui fait pitié. Voilà, c'est ça, pour une fois, c'est intelligemment fait. Enfin, pour une fois, ça arrive quand même souvent qu'il fasse du bon boulot. Mais là, juste avant Mania, c'est rassurant pour ce match qui est peut-être le main event du show, hein, mine de rien.
C'est vendu comme tel. Hein. Après, voilà. On sait quand ils disent main event à sujet de 4 ou 5 matchs à chaque fois à Mania, donc.
Pour moi, il y a trois potentiels main events hein, entre le match de Ronda, le Cena Taker si ça se fait, même si bon là, s'il l'annonce pas, ça va être difficile de le mettre en main event.
Styles Nakamura, ouais. Mais il sera pas en main event, Styles Nakamura.
De lequel tu me parles?
Styles Nakamura, ce sera pas en main event.
Ah non, je parlais plutôt du Daniel Bryan. Son
d'accord.
Retour avec Kevin Owens. Nakamura, Styles, je vois pas du tout en main event.
Non.
Voilà, donc du bon boulot pour terminer ce Monday Night Raw qui était quand même pas bien fameux.
Non.
D'ailleurs, c'est l'heure du mot de la fin, hein, donc il va falloir donner ton top, ton flop et ta note, mon bon amiral.
Top, assez facile, hein, Rollins versus une Baylor. Voilà, construisez une storyline qui les fait faire se rencontrer régulièrement sur un an et je serai content avec des vrais éléments. Bon, dans le ring, les deux, c'est du excessivement bon. Peut-être le meilleur qu'on voit sur ce Raw, c'est évident, mais peut-être le meilleur qu'on peut voir à Raw depuis un petit moment. Donc là, ils ont vraiment deux adversaires qui, quand ils se rencontrent dans les cordes, donnent fond de l'or. Le flop, je vais mettre à l'inverse Bayley contre Sonya Deville et le segment qui était autour, hein, qui était vraiment, vraiment nul, vraiment naze. Et la note, c'était pas très bon hein, pour un show avant WrestleMania. À part le match qu'on a cité, le segment d'ouverture et le segment de clôture,
ouais.
Et le segment de Cena, ça a fait peut-être aller à tout casser une heure hein, sur les trois, qui était pas mal. Donc du coup, un tiers, un tiers de cinq, on va dire que ça fait 1,5 quoi.
1,5, bam, la note tombe. Juste voilà. Avant WrestleMania, 1,5 pour Monday Night Raw, bam, le sel qui tombe.
Non, allez,
deux.
Dernier mot,
je vais mettre aussi 2.
Bah voilà.
Parce que je peux pas mettre 2,5, c'est la moyenne et on me suis ennuyé. Quand je m'ennuie, on peut pas mettre 2,5.
Non.
Je vais mettre mon flop, Alexa Bliss et compagnie, Nia Jax, tout ça, c'est vraiment pas bien. L'interview, elle était nulle. Leur séquence en selfie, c'était nul. Le match était nul. Tout était nul. Et le top, je vais le donner à Kurt Hawkins, hein, qui est de passage, dos dans lui le top. Il a fait un boulot rapide et efficace. Moi, j'ai envie de le voir plus souvent. J'aimais bien quand il venait à Monday Night Raw toutes les semaines avec sa machine à créer les stars. Là. J'adorais. Mais bon, je suppose qu'il reviendra peut-être après Mania, s'il est gentil. C'était pas glorieux ce Go Home Show, mais c'est terminé. Est-ce que t'as envie de revenir sur la carte de Mania contre Monday Night Raw ou est-ce qu'on se réserve ça pour l'émission en pré-show?
Il y aura un pré-show pour ça, ouais. Donc ouais, effectivement, ouais, le reste de la semaine, ceux qui restent en France, donc Ringside, Raph et moi, on va assurer la permanence des weekly. Hein, donc il y aura la review de SmackDown, Ringside et Raph. Il y aura aussi 205, me semble.
205, je vais le faire quand même, oui.
Je ferai NX tout seul, hein, comme ça on aura donc nos reviews sur tous les shows avant les pay-per-view et puis derrière donc ceux qui sont sur place feront pré-show et review donc du takeover du WrestleMania. Il y aura aussi d'autres vidéos concernant d'autres shows hein, indie comme la TNA, comme Shimmer, comme Progress entre autres.
Ref Pro, Evolve, tout ça pour vous. Grosse semaine de catch. Qu'est-ce que je voulais dire ? Voilà, si vous voulez être averti, bah, abonnez-vous, vous prenez la petite cloche sur YouTube, et puis vous nous suivez sur Twitter aussi, hein, comme ça on vous balance à l'avance à quelle heure on sera précisément, vu que c'est un petit peu fluctuant. Twitter, c'est Catch-up CDC, c'est aussi Catch-up CDC sur Facebook. On est aussi sur PodCloud, on est sur iTunes, toutes les adresses sont en bas dans la description. Abonnez-vous, mettez des likes, mettez des commentaires, dites-nous ce que vous avez entendu de WrestleMania, si vous avez détesté comme nous ce Go Home Show, si vous l'avez trouvé magnifique. Qui doit être le partenaire de Braun Strowman? Est-ce qu'on doit avoir l'Undertaker contre Cena? Dites-nous tout, dites-nous ce que vous en pensez. Et je te remercie, Amiral.
Mais je t'en prie, un plaisir.
Avec tout ton talent et toute ta beauté. Je vous remercie, vous tous, dans le chat qui étaient là aujourd'hui, les auditeurs qui étaient là en direct, tous ceux qui nous écoutent en replay. J'espère que ça vous a plu à écouter, à regarder, autant que nous à le faire. Et puis je vous dis à très bientôt, si Dieu le veut. Ciao, ciao.
Salut.